Le groupe de recherche et d'études sur la radio présente Exposé par Christophe Deleu.
Épisode 5. Le don du micro.
Dans le cadre d'Engrenage.
Longtemps, l'anonyme n'a pas existé à la radio. À l'antenne, l'auditeur ne pouvait entendre que des paroles de professionnels des médias, d'experts, de représentants. L'espace radiophonique était donc perçu comme un espace inaccessible, voire confisqué à l'anonyme. Le contrat de communication était donc le suivant. Les médias actifs diffusaient des contenus à des destinataires passifs. Chaque identité, celle de l'émetteur comme celle du récepteur, était figée dans une relation de type inégalitaire. L'émetteur étant détenteur du pouvoir de diffuser et du savoir à transmettre. À sa façon, l'histoire du documentaire radiophonique témoigne aussi de ce phénomène. Au départ, la parole de l'anonyme est une parole revendicative, intimiste, qui témoigne du monde, mise en onde par un médiateur qui capte cette parole. Mais il arrive aussi que l'anonyme s'enregistre seul à travers l'expérience de don du micro, dispositif d'exception que nous définissons comme l'action par laquelle le professionnel du média confie son matériel de captation sonore à l'anonyme. Si le professionnel confie son outil, c'est bel et bien pour que, en l'absence du journaliste et pour différents motifs, l'anonyme s'auto-enregistre ou se transforme lui-même en intervieweur. Quelles intentions poursuit l'instance médiatique en déléguant ainsi cette phase d'enregistrement? Avec ce dispositif, l'anonyme devient-il un professionnel des médias qui s'affranchit des contraintes d'accès à l'antenne? L'étude des conditions socio-économiques des productions médiatiques fait apparaître que les rapports de place, représentants du média interviewé, n'évoluent guère. L'intervieweur, maître de l'interaction, dirige l'interview, sélectionne les propos au montage, il est en position haute. L'interviewé, dont le rôle consiste à répondre aux questions, est en position basse. Il s'agit donc de se demander si dans les expériences de don de micro, ces rapports évoluent. À l'origine de ces expériences minoritaires, on trouve davantage la trace de projets personnels que la volonté éditoriale d'un média. Dans les émissions roulottes, sous-titrées « La parole des gens ordinaires qui disent des choses extraordinaires », entre 1993 et 1998, d'Irène Omelianenko, France Culture, comme dans « Écoutez, des anges passent », 2000-2004, et « Nous autres », depuis 2004, de Zoé Varier, France Inter, ces productrices sont à l'origine des dispositifs de don du micro dans des radios publiques où la maîtrise du contenu éditorial est très forte. Pour Irène Omelianenko, ce dispositif peut même être perçu comme une transgression à France Culture qui laisse avant tout s'exprimer des experts. Pour Zoé Varier, ce dispositif radiophonique s'inscrit dans une pratique autoréflexive qui conduit la productrice à s'interroger sur son activité d'intervieweuse et explorer d'autres types de questionnements que le sien, l'impression de tourner en rond. Dans les deux cas, il s'agit donc d'une forme d'ouverture à d'autres façons de faire de la radio. Dans la roulotte, le lieu d'enregistrement choisi, une vraie roulotte, témoigne de cette volonté de modifier les habitudes professionnelles, c'est-à-dire de quitter l'espace professionnel de la radio, le studio, et aller à la rencontre du public. L'instance médiatique renonce donc à ce qui symbolise le mieux son univers, avec le micro, pour inviter l'anonyme à investir un autre lieu, plus neutre, moins impressionnant, afin que son expression soit facilitée. Ensuite, tandis que dans les pratiques médiatiques les plus traditionnelles, c'est le professionnel du média qui fixe les règles de l'interaction, en imposant un thème d'émission, dans la roulotte, un écriteau à l'entrée invite les passants à venir raconter leur vie, ce qui laisse une certaine liberté aux volontaires. Enfin, l'anonyme est amené à décider s'il souhaite être seul devant le micro d'enregistrement ou en situation de coprésence avec Irène Omelianenko, qui leur précise que son rôle n'est pas de poser des questions. La description de ce dispositif laisse transparaître tout ce qui peut effrayer n'importe quel média. Une incertitude quant à la légitimité du témoin à s'exprimer, puisque c'est lui qui choisit de parler sans avoir été sélectionné. Quant au contenu de l'interaction, que va-t-il bien pouvoir raconter? Quant à la maîtrise de l'échange, il n'est pas là pour être interrompu. Et quant à la durée de l'enregistrement, c'est à lui qu'il appartient de mettre fin à l'expérience. Un tel dispositif peut donc être perçu à l'intérieur de l'univers professionnel comme au mieux inefficace, au pire comme dangereux, puisque rien ne garantit que les propos ainsi enregistrés seront une matière diffusable. Cette part laissée au hasard ne peut que heurter un système de représentation médiatique qui s'appuie sur des visées d'information, de distraction, et dont les dispositifs sont censés être les vecteurs. Même si les risques sont limités en raison de l'absence de direct, le média prend le risque que les moyens mis en place produisent un résultat non exploitable, ce qui peut nuire à son fonctionnement et à son économie. Dans « Écouter les anges passent » et « Nous autres » de Zoé Varier, le média va plus loin encore que dans l'expérience de la roulotte. C'est l'outil d'enregistrement, lui-même, qui est confié à l'anonyme pour une durée déterminée. Soit il l'a souhaité, soit Zoé Varier lui a proposé de participer à cette expérience médiatique. L'anonyme peut choisir soit de raconter sa propre vie, son statut alors semblable à celui de n'importe quel interviewé, à les différences près qu'il est aussi son propre intervieweur, soit d'interviewer d'autres personnes, son statut alors identique à celui d'un professionnel des médias. L'exercice n'est donc pas sans enjeu puisqu'il remet en question les rapports de place de l'interaction médiatique. L'évolution même du dispositif est intéressante à étudier. Au début, Zoé Varier se contentait, pourrait-on dire, de prêter l'appareil d'enregistrement sans consigne particulière. Elle téléphonait ensuite à l'anonyme pour savoir s'il n'éprouvait pas de difficulté à s'enregistrer. Mais peu à peu, déçue par certains travaux, elle invitait les anonymes à respecter certaines consignes. Ceux-ci ont donc reçu des cours de radio, en quelque sorte, dans lesquels ils ont appris à décrire, à mettre en mots leurs émotions, à ne pas écrire avant de parler, à parler en situation. La productrice conçoit aussi maintenant un plan de travail qui ressemble à ceux de ses propres interviews. L'évolution du dispositif peut s'analyser comme une tentative destinée à réintroduire une dimension professionnelle dans une expérience qui s'éloignait justement des conditions de production traditionnelles. Surtout, la parole enregistrée, ainsi, n'est plus la seule matière de l'émission. Zoé Varier complète maintenant ses séquences avec ses propres interviews de l'anonyme qu'elle réalise après avoir écouté les propos que celui-ci a enregistrés en solitaire. L'auditeur peut entendre deux types de séquences, celle enregistrée par l'anonyme et celle enregistrée par Zoé Varier elle-même. Il lui suffit de couper ses propres questions au montage pour que les deux types de séquences produisent une esthétique semblable. C'est un documentaire belge, micro-allemand, produit en 2003 par Thierry Génicaud, qui permet le mieux d'étudier les enjeux du don du micro. L'émission donne en effet son propre dispositif de conception à entendre. L'émission est une réflexion sur l'interview et, de façon corollaire, sur l'absence d'interview. Pour ce documentaire, Thierry Génicaud prête son micro à l'interviewée, Carole Darry-Carrère, hôtesse de l'air et écrivaine, pour enregistrer lors de ses voyages en tant qu'hôtesse les ambiances, ses textes, ses impressions. Dans une structure en abîme, l'émission livre les impressions d'une interviewée, mais peut-on encore la nommer ainsi, à qui on a transmis l'appareil d'enregistrement et qui se retrouve seul avec lui. Génicaud se réapproprie aussi la matière sonore d'une autre émission, Du jour au lendemain, diffusée sur France Culture le 1er septembre 2001, dans laquelle le producteur, Alain Weinstein, interviewe la même Darry-Carrère, qui est au centre du micro allemand de Génicaud. Génicaud intègre enfin des extraits d'une rencontre publique du 9 avril 2002, dont il est l'organisateur, avec Weinstein, à l'occasion de la sortie du roman « L'intervieweur », où ce dernier commente l'interview qu'elle a réalisée avec Darry-Carrère. L'émission de Génicaud est donc composée de différentes strates qui se font écho, dont on peut retracer la chronologie sonore. Premièrement, interview de Darry-Carrère par Weinstein dans Du jour au lendemain. Deuxièmement, rencontre publique dans laquelle Weinstein commente cette interview. Troisièmement, interview de Darry Carrère par Génico. Quatrièmement, séquence où Darry Carrère s'enregistre seul. D'après l'écoute de ces séquences, il apparaît que Darry Carrère a été déstabilisé par l'entretien avec Weinstein. Le documentaire de Génico prend comme point de départ cette interview atypique, ainsi que la réflexion d'un professionnel, Weinstein, sur ses pratiques professionnelles. Ce dernier confirme qu'il a choisi d'interviewer l'hôtesse de l'air plutôt que l'écrivaine. Même si l'aveu s'accompagne de rire, le procédé peut paraître cruel pour l'interviewé, qui, en accédant à la sphère médiatique, peut légitimement s'attendre à être interviewé sur son statut d'écrivaine dans une émission littéraire. C'est comme si Génico souhaitait revenir sur cette blessure médiatique. Son don du micro peut donc être interprété symboliquement comme un devoir de réparation sonore. Darry Carrère pourra s'enregistrer en tant qu'écrivaine, se réinscrivant dans la cartographie littéraire. Nous l'avons vu, l'interview est une interaction qui s'articule autour de rapports de place. On peut dire que Carole Darry Carrère se situe dans une position haute, là où, dans Du jour au lendemain, elle était en position basse. Génico renonce donc à un dispositif perçu comme noble dans l'imaginaire professionnel, l'interview, comme lieu d'échange, où le professionnel du média, grâce à son savoir-faire, à son talent, peut aider l'autre à s'exprimer, à accoucher, selon le principe de la maïeutique. L'interview est souvent comparée à une relation de type amoureux. Micro-allemand, l'émission de Génico, un micro qui ne se voit pas, permet ainsi de s'interroger sur le statut d'une parole qui n'est plus le fruit d'une rencontre. Le documentaire acquiert une dimension érotique. Les propos de Weinstein, « La parole met le feu au désir », faisant écho au premier essai radiophonique, enregistré en solitaire, quasi chuchoté, de Darry Carrère, décrivant sa voix qui tremble, n'ose pas s'affirmer, qui a mal, animal qui se retranche dans sa petite grotte et qui a envie de sortir, entre inquiétude et jouissance. L'acte de donner le micro est d'autant plus fort ici qu'il se double d'un éloignement géographique grâce à la profession de l'interviewé, hôtesse de l'air. Le producteur reste à quai, tandis que son prolongement naturel, son micro, qu'il définit comme le bâton du marcheur, voyage, créant une distance irrémédiable entre l'auteur du documentaire et son sujet, qui semble s'échapper. Le don du micro, défini par Génico comme un espace d'amitié, peut aussi apparaître à l'écoute comme un adieu nostalgique à l'échange. Dans La Roulotte, comme dans Nous autres ou dans Micro allemand, peut-on en déduire que l'anonyme est devenu lui-même un professionnel des médias ? Bien évidemment non, puisque dans ses expériences, seule une étape de fabrication de l'œuvre radiophonique lui est déléguée, celle de l'enregistrement. Le travail de montage reste à la charge des professionnels. Dans ses expériences, l'anonyme remet les sons comme on rend les armes et disparaît au montage. L'instance médiatique, qui s'était effacée en tant que médiateur chargé du recueil de la parole, réinvestit la chaîne de production pour élaborer le programme définitif. Au regard du contrat de communication, l'instance médiatique conserve donc son pouvoir de mise en onde. L'idée selon laquelle elle-même, en tant qu'instance médiatique, loin d'aider à l'accouchement de la parole, fait écran et nuit à la captation d'une forme d'intimité. S'éloigne aussi l'espoir que l'expression radiophonique soit libérée des contraintes professionnelles, temporelles et spatiales, et que par conséquent, l'interviewé, en s'affranchissant de ses impératifs, pourra choisir le moment et le lieu pour se raconter, loin de tout témoin. Arte Radio, diffusée sur le web uniquement, qui propose des modules à écouter et non un flux radiophonique, a marqué une nouvelle étape dans l'évolution du statut de l'anonyme dans les émissions de type documentaire. L'auditeur peut découvrir des journaux intimes sonores, et si le média radio web accompagne encore l'anonyme, qui tient son journal dans la réalisation du produit fini, phase de montage, mixage, en revanche, l'intégralité de l'espace radiophonique est composée des propos de l'anonyme. L'anonyme devient donc, dans ce dispositif, le maître de l'interaction et bénéficie d'un statut proche de celui du professionnel des médias. Il n'est d'ailleurs pas surprenant d'assister à des transferts, c'est-à-dire à des situations où un anonyme devient lui-même producteur de documentaires. Par exemple, Delphine Saltel, professeure, a d'abord tenu un journal intime sur Arte Radio avant de devenir productrice déléguée pour France Culture et de concevoir des documentaires sur le monde de l'enseignement. Pour elle, l'expérience de don du micro peut s'analyser comme une tentative première, un exercice qui lui a permis d'apprendre à faire de la radio et à convaincre le monde des professionnels de la radio qu'elle pouvait réaliser des émissions. L'anonyme est dans ce cas un apprenti documentariste qui s'entraîne d'abord à s'enregistrer avant d'interviewer autrui. C'est en 2007, cependant, qu'Arte Radio introduit une ultime et irréversible date dans l'histoire du don du micro, en proposant à l'internaute de créer son blog sonore. L'anonyme devient ainsi un audioblogueur, ainsi qu'Arte Radio les nomme, qui devient auteur de contenu et qui signe un contrat fixant ses droits et devoirs. L'anonyme maîtrise tout le dispositif de production, de l'enregistrement au mixage. Libre à lui de faire entendre sa propre voix ou celle des autres. Arte Radio n'exerce qu'un droit de regard qui empêche de diffuser des propos contraires à la loi. Mais aujourd'hui, l'internaute n'est même plus obligé de s'adresser à un diffuseur pour que sa production soit mise en ligne. Il peut créer, sur son propre site, par exemple, « Est-ce que t'entends ce que je vois ?» qui propose une série de créations sonores d'une internaute qui fait entendre une série sur les lettres d'amour. Les expériences de dons de micro à l'anonyme sont révélatrices des profonds bouleversements dans les médias marqués par un phénomène de démocratisation. C'est d'abord l'histoire des techniques qui est à l'origine de ces mutations. Les prises de son sont maintenant réalisées avec des outils plus petits, moins onéreux. L'arrivée du numérique a aussi permis de réaliser des montages et des mixages plus économiques et plus simples qu'auparavant. Tout individu peut aujourd'hui diffuser des contenus sur Internet, ce qui élargit considérablement les espaces de diffusion. À travers ces multiples expériences de don du micro, les professionnels des médias utilisent des techniques pour remettre en question leurs pratiques professionnelles. Mais l'apparition d'Internet redéfinit le fondement même du contrat de communication qui supposait la présence de deux acteurs, une instance médiatique et sa source qui lui offrait sa voix. Ce n'est donc pas une simple opération technique par laquelle le professionnel cède pour un temps son outil professionnel, c'est la fonction symbolique elle-même de ce don au regard de l'histoire radiophonique qui est très forte, puisque jamais auparavant, l'anonyme n'avait été considéré comme susceptible d'enregistrer une partie du programme ou son intégralité. L'échange est donc ici délaissé au profit de pratiques plus solitaires. Les nouvelles conditions d'enregistrement et de diffusion désacralisent la radio. Les professionnels peuvent aujourd'hui légitimement s'interroger sur leurs fonctions dans notre société. Ils pourront bien sûr toujours affirmer que la conception d'une production d'une œuvre nécessite un savoir-faire professionnel, un échange entre une instance médiatique et non médiatique, une responsabilité éditoriale. Ils seront pourtant dans l'obligation de constater que leur présence n'est plus indispensable dans la interaction. Ce sont donc, in fine, les conditions socio-économiques des médias qui s'en trouvent modifiées, puisque les auteurs de ces documentaires relèvent aujourd'hui de statuts divers, entre salariés, pigistes et bénévoles, et que l'offre de programmes de toute nature, souvent gratuite, se multiplie. À terme, ce sont peut-être les sources de financement, redevances, publicités, des médias radiophoniques qui s'en trouveront modifiés. Dans ce nouveau contrat de communication, marqué par l'achèvement de la relation de type inégalitaire entre l'instance médiatique et ses sources, qui fusionnent pour parler d'une seule voix et se multiplient à l'infini, il reste bien sûr à espérer qu'il y ait encore des destinataires pour les écouter.
Le groupe de recherche et d'études sur la radio a proposé à la grenouille de venir faire sa dissection. Quel peut être le devenir d'une radio culturelle locale à l'heure de la révolution numérique et de l'accélération de l'hégémonie des grands réseaux de communication. Retrouvez l'exposé de Christophe Deleu du 19 au 24 mai à 10h sur les 3-8. Rendez-vous au débat public sur les enjeux de la radio aujourd'hui, le dimanche 25 mai à 16h à Montevideo. Et après l'événement, ne ratez pas le témoignage critique de Christophe Deleu sur son expérience vécue à Engrenage le samedi 7 juin à 15h sur le 88.8. Pour plus d'informations sur Engrenage, www.grenouille888.org.